Les plumes sur RCN, présentées par Mona.
Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Raymond Hiss, membre fondateur du collectif du prix de la Cour de l'Imaginaire, et Stéphane Croen, qui vient d'obtenir le prix 2022 de la Cour de l'Imaginaire pour son roman « Otto et les néantistes, nouvelle fable de Venise » publié chez Roïse Éditions. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien.
Bonjour.
Alors Raymond, vous pouvez nous rappeler la genèse de la Cour de l'Imaginaire ?
Alors la Cour de l'Imaginaire fête aujourd'hui, enfin cette année son 10e anniversaire. Donc elle a été fondée en 2012 par trois personnes, nous sommes toujours trois, un collectif. Et le but de l'opération à l'époque, c'était de promouvoir un nouvel écrivain, quelqu'un qui n'était pas forcément, avait écrit éventuellement, publié des nouvelles ici ou là, mais qui n'avait jamais été publié à titre professionnel, notamment avec un roman. Et donc nous faisons chaque année un appel à texte dans les domaines de l'imaginaire, c'est-à-dire de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy. Et nous sélectionnons un des ouvrages qui reçoit donc le prix, mais le prix consistant à être publié par un éditeur partenaire, qui sont actuellement les éditions Roïse. Et donc c'est publié dans le cadre d'un contrat d'édition à compte d'éditeur, un contrat classique, modeste, mais classique, et ça permet de mettre le pied à l'étrier à cet auteur. Et ça, depuis 10 ans, ça a marché, parce que la plupart des auteurs que nous avons sélectionnés, la plupart d'entre eux qui avaient été rebutés un petit peu par les milieux un peu fermés de l'édition, qui fonctionnaient un peu en interne, ont continué à écrire et à publier des nouvelles, des romans, on les suit d'ailleurs, et chaque année, donc, on leur organise pour le lancement de leur roman, un café littéraire à Nancy.
Mmh. Alors, quels sont les critères pour participer à ce concours ?
Il faut écrire un roman,
oui.
dans les domaines de l'imaginaire, entre 300 et 600 000 signes, et nous l'adresser. Donc, tout ceci, le règlement du concours et tout le reste, se retrouve sur le site internet lacourdelimaginaire.com.
D'accord. Mais l'imaginaire, en général, un roman, c'est de l'imaginaire.
Alors, oui.
Qu'est-ce qui différencie le...
C'est ce qui différencie le roman classique de la science-fiction ou de la fantasy. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les trois domaines, mais enfin bon, la science-fiction, c'est un peu plus connu. La fantasy, ben, c'est un petit peu... Il y a quelqu'un qui avait fait une métaphore là-dessus, en disant, pour distinguer les trois genres, il disait que si le matin, vous vous levez et que votre chat vous parle, s'adresse à vous en parlant, vous êtes dans la fantasy. Parce que dans la fantasy, c'est comme dans les fables de La Fontaine, les animaux parlent et on trouve ça tout à fait normal.
Mm-hmm.
Par contre, il a des antennes sur la tête et parle avec une voix un petit peu d'extraterrestre, vous êtes dans la science-fiction, c'est un extraterrestre qui est apparu devant vous. Et s'il a des cornes, il crache du feu, etc., et vous fait très peur, là vous êtes vraiment dans le fantastique, parce que dans la réalité, les chats ne parlent pas.
Mmh.
Voilà, c'est une façon de présenter ces trois genres. Mais c'est vrai que le roman, mais en général, on est toujours dans l'imaginaire malgré tout, oui, bien sûr.
Mmh. Alors il y avait beaucoup de participants à ce concours cette année ?
25 ou 26, je n'ai plus le nombre exact en tête. Donc on a généralement... On a un lauréat, pas toujours d'ailleurs, on a fait une année blanche en 2015 parce qu'on estimait qu'il n'y avait rien de valable. Donc la sélection qu'on fait est ultra rigoureuse. Disons que c'est le roman qu'on sélectionne, c'est vraiment le haut du panier, quoi. Et les autres sont éliminés, c'est ce que font la plupart des éditeurs, hein. Il y a 95% de pertes de déchets, quoi.
Mmh. Merci.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors Stéphane Croen, vous voulez bien vous présenter, nous parler un tout petit peu de vous ?
Oui, alors je suis nouvelliste au départ. J'écris et je publie des nouvelles ou des novellas, c'est-à-dire des nouvelles un peu plus longues, un peu plus consistantes. Depuis 9 ans, bientôt 10. Et puis, il me manquait l'expérience du roman. Alors j'étais, je me cantonnais à l'écriture de nouvelles pour des raisons très pragmatiques, c'est-à-dire que entre le travail, parce que je suis professeur par ailleurs, professeur de philosophie, entre le travail, les enfants, etc. Bon, c'est pas toujours simple de réussir à trouver une place à l'écriture, et le format de la nouvelle était idéal, non, pour moi. Mais au fil des années, j'ai senti que j'avais besoin d'essayer d'expérimenter autre chose. Et puis l'occasion s'est présentée donc ces dernières années. Alors on verra peut-être ensuite pour quelles raisons. Mais donc voilà, j'avais à cœur de faire un roman, et tout particulièrement ce roman-ci qui porte sur l'enfant, sur Venise. Et dans la jungle de l'édition, la proposition de la Cour de l'imaginaire m'a semblé intelligente, opportune, parce qu'elle présentait une possibilité d'édition à compte d'éditeur, et puis ça me permettait aussi de me tester, d'avoir un, voilà, je savais, enfin je trouve que le concours était une porte d'entrée intéressante par rapport à l'envoi spontané à une maison d'édition qui va répondre ou pas. Et puis ça a marché. Voilà, un beau matin, j'ai découvert le message de Raymond qui me disait, eh bien, l'auto-élénéantiste est sélectionné. Donc,
mm-hmm. Alors, comment est née la genèse de ce roman, de cette fable de Venise ?
Alors, la question est immense. Je vais essayer d'être synthétique. Je suis très attaché à plusieurs thèmes qui se croisent dans ce roman, l'enfance d'une part. Mmh. Donc ça, c'est un point fondamental. Je savais que je ferais un roman sur l'enfance, et d'ailleurs c'est pas fini, c'est quelque chose qui est important pour moi, dans mes nouvelles aussi, pas toujours mais régulièrement. D'autre part, je suis également attaché à Venise. Vous me direz que c'est pas très compliqué d'être attaché à cette ville. Bon, l'humanité entière est attachée à Venise, si oui. Je puis dire. Et plus encore, ceux qui ont la chance d'y être allés au moins une fois et de l'avoir parcouru, j'ai envie de dire, de manière un peu intelligente. C'est-à-dire pas moins de 5 heures pour faire un selfie devant le pont des Soupirs et puis hop, repartir. Bon. Ça, c'est pas très utile. Donc j'y ai vécu dans cette ville, j'y suis attaché, j'y ai des amis, ça compte aussi beaucoup pour moi. Et puis ce n'est pas un scoop, mais elle est en très mauvaise posture. S'y invite la question de l'environnement, du réchauffement climatique et de la montée des eaux. On y prête une attention particulière parce que c'est Venise, mais ça affecte évidemment... bien des pays et bien des littoraux. Bon, donc Venise, c'est important pour moi, l'enfance, c'est important pour moi, et donc tout est dans le titre, hein, Otto et les néantistes, nouvelle fable de Venise, voilà, on trouve la référence à cet enfant, Otto, et puis la ville, j'ai croisé ces deux thèmes avec bien d'autres hein, d'ailleurs, avec comme trame de fond, avec comme... voilà, la colonne vertébrale du récit étant la question environnementale.
Oui, bien sûr. Alors, votre héros, Otto, est un petit garçon de 8 ans atteint de sélénisme. Alors, pour nos auditeurs, vous voulez bien expliquer ce qu'est le sélénisme ?
Je vais essayer. c'est une maladie qui n'existe pas, même si y a tout un tas de pathologies qui peuvent présenter des symptômes assez proches de ce qu'il a, mais bon, c'est le but, c'était vraiment d'inventer quelque chose et donc de proposer un nom de pathologie qu'on ne va pas retrouver dans le DSM. Hein, ça, c'est, voilà. Donc, le sélénisme, il est ailleurs, c'est-à-dire qu'il a spontanément une attention flottante qui ne l'attache pas spécifiquement aux choses de la réalité. D'une part, Sélène, hein, ça renvoie à la Lune. Pardon, j'aurais peut-être dû préciser. Hein, ça renvoie à la Lune. Et voilà, c'est aussi un élément important du roman, puisque cet enfant est convaincu que sa maman habite dans l'espace.
Oui.
Donc il est lunaire, avec tout ce que ça présuppose, hein, dans le nôtre, d'imaginaire. Et puis par ailleurs, ça implique chez lui une forme de lenteur. Que notre société qui nous demande hein, d'aller toujours très vite et toujours plus vite pour tout fait de lui une sorte d'inadapté chronique. Voilà, il est toujours en retard, surtout, tout le temps. dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. Donc, son animal totémique, c'est l'escargot. Mmh. Voilà. Voilà, c'est un petit escargot lunaire. Et alors, il m'intéressait parce que, c'est, pour moi, c'est la figure du résistant contemporain à l'évolution de notre société thermo-industrielle et technologique où tout va toujours plus vite, où tout va... le héros, c'est le voilà, j'avais pas envie d'un héros qui soit une sorte de brute épaisse, surarmée, qui lève des armées. Oui. Non, c'est un gamin qui plane et c'est lui qui va lever une armée pour essayer de contrefaire ce qui est en train de se passer à Venise, hein, qui est en train de détruire la ville qu'il accueille. Donc voilà, c'est... Voilà, oui. Je ne sais pas si je peux...
Alors, Otto n'a pas de papa et sa mère est partie vivre sur Mars, donc. Heureusement, il a une sœur, Alba, âgée de 16 ans, qui veille sur lui. Le problème, c'est qu'Anna est mineure et qu'en conséquence, l'administration française veut les placer sous tutelle. Et qu'ils vont donc devoir... Et qu'ils seraient séparés, puisque le petit garçon est donc atteint de sélénisme. Les deux enfants vont donc devoir se cacher. Alors, Stéphane, vous voulez bien nous lire l'extrait que je vous ai préparé, s'il vous plaît ?
Alors on est parti. Dans notre situation, Aurore se sentait incapable d'assurer mon éducation et surtout ma survie. On ne pouvait pas rester en région parisienne. Et puis de toute façon, il y avait trop de monde tout le temps, partout. Le rythme était fou, sans compter tous ces gens qui pouvaient nous reconnaître et nous démasquer, nous livrant pour une poignée d'euros à l'administration. Sans parler des voitures, on habitait tout près d'un périphérique. L'air était tout violet-gris. Ma sœur m'a dit plus tard que dans ce quartier, on avait la même espérance de vie que les gens au XIIe siècle. Et qu'on avait bien fait de partir. Et puis il y avait toujours des accidents très graves. C'est étonnant en France ce que les gens se tuent. Ça ne va pas du tout. Je me souviens que les cars scolaires se jetaient contre les trains dès qu'il n'y avait pas de barrière. Ils disaient ça à la télé. Ça me fichait une sacrée frousse après les sorties scolaires. Des employés suicidés sautaient de leur bureau au 15e étage. Ils vous tombaient dessus en criant le nom de leur patron. Il vaut mieux lever la tête en ville en France. Dans les rues, parfois, dans des petites tentes quechua, des gens mouraient de faim, de froid, en plein Paris, comme si on était à la préhistoire. C'était à ne pas savoir à quelle époque on vivait. Devant les cathédrales et les bureaux de poste, des bombes divines étaient cachées dans des poubelles, entre une bouteille de soda et un emballage de sandwich, ce qui n'a aucun intérêt, surtout c'est extrêmement dangereux. Une fois à la radio le matin, ma sœur écoutait toujours la matinale de Nicolas Salamé, je crois bien. Elle disait qu'elle voulait garder le rituel de maman. J'ai entendu qu'une femme se faisait tuer tous les deux jours par son mari. Se faire tuer une fois, ce n'est déjà pas drôle, j'imagine. Mais tous les deux jours, non, ce pays, ce n'est pas possible. Et puis en France, souvent, c'était le samedi. Les gens manifestaient. Ils voulaient une autre vie. Du gasoil moins cher, de l'amour, un président gentil. Quelque chose d'autre, en tout cas. Ils préféraient jouer aux cartes la nuit sur les ronds-points, sous la pluie, plutôt que leur vie normale. C'est dire... Je me souviens aussi de journalistes, des gens vraiment sympas, m'avait expliqué ma sœur, qui ont été massacrés pour avoir publié un dessin dans leur journal. Ça ne va pas à la tête en France, je vous dis. Ça m'a rendu tellement triste. Et puis ça m'a fait peur aussi. Le dessin, c'est toute ma vie. Toute cette violence, c'était juste horrible. Je ne sais pas si les enfants normaux peuvent le comprendre. Mais un enfant sélénien, je peux le dire, il n'y comprend rien du tout. Je crois bien que je ne retournerai jamais en France. Ça fait bien trop peur. Et puis on mange des escargots là-bas. Bref, n'y allez pas en France, jamais. Sinon... Vous mourrez.
Merci Stéphane. J'adore la candeur de Otto, qui est le narrateur de ce roman, hein, bien sûr.
Oui, bah c'est ça aussi qui m'intéresse dans l'enfance, c'est de voir le monde des adultes à hauteur d'enfant. Il y a quelque chose d'assez... il y a une charge critique très très forte, qui n'est pas la charge du philosophe ou du sociologue en surplomb qui analyse les... Non, non, c'est... Le fait de ne pas comprendre cette absurdité, je trouvais que la critique de ce fait était encore plus acide et touchait mieux la cible.
Merci Stéphane. Nous allons continuer à parler de votre roman après. Nous sommes toujours en compagnie de Raymond Hisse, membre fondateur du collectif du prix de la Cour de l'Imaginaire, et de Stéphane Crohen, qui vient d'obtenir le prix 2022 de la Cour de l'Imaginaire pour son roman « Otto et les néantistes, nouvelle fable de Venise » publié chez Roïse Éditions. Alors Stéphane, les enfants sont partis, les voici arrivés à Venise. Racontez-nous un tout petit peu.
C'est un petit peu effrayant pour eux, c'est-à-dire que voilà, la région parisienne était devenue intenable pour eux puisqu'ils ne voulaient pas être séparés. Donc ils choisissent le départ, et le départ dans la clandestinité pour ne pas se faire attraper. Venise va être effrayante aussi au début pour d'autres raisons, tout simplement parce que la maison familiale dans laquelle ils arrivent est une très vieille bâtisse abandonnée. C'est assez lugubre. Et puis, elle est hantée par un chat, un vieux chat étrange, qu'on retrouve après, évidemment, au cœur de l'histoire, bon, qui inquiète singulièrement Otto. Mais très vite, Venise va quand même leur permettre, va leur offrir un abri relativement sûr, en tout cas pour un temps. Et puis, il faut dire aussi que la grande sœur Alba, qui s'occupe avec force et dignité de son petit frère, est capable d'assumer beaucoup de choses. J'avais à cœur de créer un personnage féminin. Enfin voilà, cette jeune femme qui fait des études, qui travaille, qui s'occupe de son petit frère, qui n'est quand même pas évident. Hein,
non, elle est très mature. Hein,
un peu, voilà, elle est très caractérielle, mais aussi très très mature et extrêmement bienveillante. Et grâce à elle, les choses vont plutôt bien marcher assez rapidement à Venise.
Donc elle fait des études de philosophie, ah oui, essentiellement. Et elle est fan de Foucault, de Michel Foucault.
Elle est fan de Michel Foucault, oui.
Vous voilà, aussi
c'est... Alors, bah oui.
oui j'ai cru comprendre, oui.
Oui, ça m'amusait, cette histoire. Bon, on fait avec ce qu'on connaît et ce qu'on aime. Hein, oui. Et en l'occurrence, ça me plaisait de mêler la philosophie et des personnages philosophiques à l'imaginaire littéraire. J'aime beaucoup Michel Foucault, et puis j'en avais besoin, puisque Michel Foucault, voilà, c'est l'auteur de l'Histoire de la folie, c'est un grand philosophe qui nous a expliqué que il n'y a pas d'un côté les fous et de l'autre les gens normaux et sains d'esprit, tout est question de degré, d'accident de parcours, de singularité. Voilà, et donc j'en avais besoin pour signifier qu'Otto, ce n'était pas un fou qui était à mettre dans une case pour l'éternité, c'était simplement un gamin un petit peu différent qui avait quelque chose à nous dire et à apporter en ce bas monde. Donc il va devenir une sorte de père symbolique, hein, oui. Une sorte de tuteur voilà, auprès de ses deux enfants qui cherchent aussi un point d'appui.
Bah oui, c'est normal.
Voilà, s'ils sont quand même livrés à eux-mêmes.
Alors Otto est un petit garçon très intelligent, donc assez naïf, mais qui peut se révéler très pragmatique, parce qu'au moment, il a un peu peur. Alors il dit, si on veut sauver au moins un enfant sur deux, c'est toujours ça. Et autant sauver le petit. Et le petit, c'est lui. Donc...
Oui, c'est... Et c'est ça, il est pragmatique, un peu trouillard.
Lui
il n'a pas que des qualités, hein. C'est pas.
Non.
Voilà, il triche un peu, il ment un peu, il est régulièrement quand même extrêmement casse-pied avec sa sœur, alors qu'elle est au bord de l'explosion. Mais voilà, c'est Otto, quoi. C'est un enfant qui a quand même. Je voulais pas d'un petit héros parfait, très lisse.
Ah oui.
En tout cas, il est très accroché à la vie, ça certainement. Il est très accroché à la vie.
Alors, cependant, c'est très difficile pour lui d'être différent, très difficile de se faire des amis. Parce que comme il est différent des autres, mais en même temps, ça ne se voit pas spécialement qu'il est différent.
Non, mais c'est vrai qu'il est seul. Hein. Il est quand même. Alors, il est seul pour les raisons que l'on a dites, ils doivent rester extrêmement discrets parce qu'ils ne sont pas censés se trouver à Venise et sans parents. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, il est rêveur, il est lent. Alors malgré tout, il arrive à se faire une place dans une école
oui,
à Padoue.
L'école des enfants bizarres.
C'est comme ça qu'il l'appelle. Hein,
oui.
Voilà, mais, donc l'école des enfants bizarres, où il arrive tout de même à se faire deux amis, notamment.
Oui. Oui.
Mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors moi, c'est des questions auxquelles je suis extrêmement sensible en tant que père, en tant qu'enseignant, et puis voilà, en tant qu'être humain. c'est très, l'enfance, l'adolescence sont des périodes extrêmement difficiles où on est très, on se sent très 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 vite remis en cause, et puis il y a une angoisse absolue de se sentir non intégré, de se sentir mis de côté. Ça, c'est extrêmement violent. Et j'avais envie de traiter aussi ce thème-là à travers l'histoire d'Otto, qui vit quand même quelques moments extrêmement pénibles de ce point de vue-là dans le roman.
Oui, oui, bien sûr. Et alors pourquoi ? C'est une question de nombre, la différence ? Pourquoi les gens un peu différents font peur ?
Mais ils inquiètent. C'est-à-dire que dans le cas d'Otto, son mode de vie... perturbe le fonctionnement de la machine. Je pense à les temps modernes de Chaplin. Au début, il est trop lent, il va pas assez vite sur la chaîne de montage. Et ça se passe très mal, donc, parce qu'il ralentit tout le monde. Et puis il y a cette scène où il se fait avaler littéralement par la machine. Elle est extrêmement connue, cette scène. Mais c'est, alors on peut se dire qu'il se fait avaler par la machine, mais aussi ça représente le grain de sable qui rentre dans la machine et qui grippe l'ensemble. Donc oui, le caractère, le profil psychologique d'Otto est perturbant de ce point de vue-là, parce qu'il nous force à être plus lent, à ralentir le rythme de nos existences. Je pense, c'est Paul Virilio qui dit, c'est un auteur que j'adore, un très très grand penseur de notre époque, je crois, qui dit que la vitesse réduit le monde à rien. La vitesse réduit le monde à rien. Et quand on fait tout trop vite, on passe à côté. On ne regarde plus, on n'écoute plus, et on est là sans être véritablement là. Donc Otto nous force, il nous tord le bras pour nous obliger à nous poser, à regarder, à écouter les choses. Et c'est, pour nous autres contemporains, c'est devenu un saut dans l'inconnu, une histoire pareille.
C'est, oui, oui, c'est vrai. Compliqué. Alors donc, il a quand même réussi à se faire deux amis donc, qui fréquentent le même établissement que lui. Donc Stella, qui a comme pathologie player kid.
Oui, oui, elle est... c'est une player kid. Elle n'arrive plus à distinguer la réalité du jeu vidéo au point de penser... que l'univers entier est un jeu vidéo. Elle est un personnage central d'un immense jeu vidéo.
Oui.
Voilà. Et donc, elle est convaincue qu'elle a plusieurs vies, etc.
Et Tim, qui est, lui, Panic Kid.
Oui, c'est... Bon, là, pour le coup, hein, c'est pas... c'est sans doute la... C'est quasiment une pathologie qui existe et qui concerne beaucoup de monde. Simplement, là, j'ai poussé le curseur très très loin. C'est-à-dire que lui, son existence est littéralement intenable du matin au soir. Tout le terrifie, tout le terrorise, tout est objet de crises d'angoisse à répétition. Voilà, mais il me semblait intéressant de mettre ce profil en vis-à-vis de Stella, qui, elle, pour le coup, est extrêmement téméraire.
Oui.
Elle est convaincue d'être une héroïne d'un jeu vidéo. Donc,
Puis qu'elle a plusieurs vies, donc elle peut y aller.
Elle a plusieurs vies, elle craint rien. Ben Stella ne craint absolument rien, contrairement à son jeune camarade. Oui.
Alors, heureusement, il y a le chat, Nietzsche. Un chat philosophe.
Oui, bon, là, c'est pareil. C'était aussi un des éléments... je savais qu'il y aurait Nietzsche dans mon premier roman. J'en étais convaincu. Maintenant, j'avais pas envie de vouloir faire une sorte d'essai philosophique sous couvert de faire un roman. J'avais pas envie de faire une sorte de nietzschéisme. Enfin, voilà, j'ai pris Nietzsche comme personnage d'un récit pour Jung adulte, mais néanmoins, je n'ai pas voulu perdre la quintessence de sa pensée. Donc j'ai piqué le texte de petites références que mes amis et collègues de philosophie s'amuseront peut-être à retrouver. Mmh. En tout cas, moi, je me suis amusé à le faire. Et puis, il y a donc par-dessus ces petites références cachées, j'ai envie de dire, il y a un niveau plus littéral. Enfin voilà, ma fille est en train de le lire... Et il y a un niveau plus accessible où Nietzsche, c'est simplement un vieux chat grincheux, extravagant, qui a envie de bouger les choses.
Donc, oui, et qui parle, bien sûr.
Qui parle, bien sûr, oui, oui. Bon, et puis, voilà, la découverte se fait devant la maison où Nietzsche a effectivement vécu, puisque Nietzsche a résidé à Venise. Hein, donc, oui. C'est un peu la réincarnation, c'est un peu la personnification animale hein, de Nietzsche.
Mmh. Alors, moi j'ai adoré quand il a expliqué à Otto ce qu'était le nihilisme. Vous pouvez nous faire la petite lecture, s'il vous plaît ?
Alors, c'est quoi le Oui, le nihilisme. Écoute, Otto, ce n'est pas simple à expliquer à un enfant de ton âge. Mais tu es intelligent, je vais essayer, je suis sûr que tu vas comprendre. On va dire que le nihilisme, c'est une maladie. Voilà, une maladie qui touche aujourd'hui tout le monde, ou presque. Comme l'addiction aux séries ? Oui, si tu veux. Donc, c'est une maladie. Et quand on est nihiliste, on ne va pas bien, on est malheureux. On n'a plus le goût à rien. D'ailleurs, nihilisme, ça vient d'un mot latin, nihil, qui veut dire rien ou le néant. C'est quoi le néant ? Le néant, l'état actuel de mes recherches, c'est, je crois, une sorte de petit virus invisible qui attaque les nerfs. Ça rend les gens totalement vides, ils sont comme zombifiés. Zombifiés ? Quand je vais dire ça à Stella, elle a tout compris avant tout le monde. Je suis très impressionné. Et il vient d'où ce virus ? De loin, il y a longtemps sûrement, mais aussi de partout et depuis toujours. Mais quel rapport avec le Cristoforo Colombo ? Donc c'est un navire qui a accosté précédemment. J'y viens. Quand on est malheureux, qu'on se sent vide, eh bien on devient très agité. Quand on est très agité... Moi je mange, c'est fou ce que je mange. Oui, c'est vrai, on peut manger. Ou on joue sur son smartphone aussi. On a une voisine, elle ne fait que ça, la pauvre. Ma sœur dit qu'elle n'a plus de vie. Elle végète dans son canapé à jouer pendant des heures sur son écran. Oui, aussi, sans doute. Mais sinon, quand on est très agité, on ne tient pas en place. Il y a beaucoup d'enfants comme ça dans mon école. Exactement. On ne tient pas en place. Le virus du néant pousse le monde entier à visiter le monde entier, partout, tout le temps, à toute allure. On voyage tellement qu'on ne sait même plus ce qu'est un voyage. Tu veux dire que tous ceux qui voyagent aujourd'hui sont contaminés par le néant ? À vrai dire, c'est très profond comme maladie. Je ne connais pas tous les symptômes, mais j'ai déjà rencontré pas mal de personnes qui en souffraient, et ce n'est pas facile d'en guérir. Raconte-moi, j'ai besoin de savoir. Par exemple, on dort mal. À vrai dire, on ne dort quasiment plus vraiment. L'esprit est toujours troublé, tourmenté. Mais aucun adulte ne dort bien, non ? Oui, tu as raison. Ils ne sont quand même pas tous néantistes, si ? Ça se dit néantiste ? On dit plutôt nihiliste, d'habitude. Hein, j'ai du mal à le dire. Je préfère dire néantiste, si ça te convient. Très bien. Désormais, nous les appellerons les néantistes. C'est quoi les autres symptômes ? Eh bien, pour ce que j'en sais, on ne danse pas. Jamais ? Non, jamais. Je sais que ça paraît fou, inconcevable même, de vivre sans jamais danser, mais c'est la vérité. Même pas tout seul dans son salon ? Non, on se sent bien trop mal pour oser danser. On ne chante pas non plus. Alors ça, c'est vraiment affreux. Oui, et il y aurait tant à dire. Le néantiste n'aime pas tout ce qui est vivant. Il ne s'aime pas lui-même. Vivre devient un effort difficile pour lui. Tiens, encore un autre symptôme. On ne pense qu'au passé. On n'arrive plus à apprécier le présent. On a la tête tout le temps dans les souvenirs. On fait de sa mémoire une sorte de musée duquel on n'arrive plus à sortir. Ensuite, dis-moi tout ce que tu sais. Eh bien, très souvent, les néantistes ont besoin de maîtriser l'espace-temps. Ça veut dire quoi ? Ils veulent réduire l'espace en allant toujours plus loin et accélérer le temps en allant toujours plus vite. Par conséquent, l'espace et le temps deviennent comme plus petits. On a l'impression de mieux les contrôler. Tu comprends ?
Merci. Place.
Les plumes sur RCN, Mona.
Stéphane, c'est vous qui avez choisi cette chanson de Suzanne. On vous sent très concerné par le désastre écologique actuel. Êtes-vous pessimiste sur l'avenir de notre planète ou vous croyez qu'il est encore possible de sauver les meubles ?
Comment répondre à cette question ? Je crois qu'il faut être lucide et essayer au maximum de regarder les choses en face. Alors, je sais que c'est une platitude absolue, mais c'est-à-dire qu'individuellement, on est lucide, on comprend la situation, mais après, il y a le niveau collectif. Il y a une âme collective et une... Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'individuellement, on est bien conscient de la situation et collectivement, on est dans une sorte parfois de déni ou de fuite en avant ou pour tout un tas de raisons, parce que c'est absolument effrayant. D'autre part, il y a des enjeux et on a du mal à hiérarchiser certains enjeux. Enfin, je pense à ce qui vient de se passer lors de la dernière COP, où personnellement, j'étais atterré du statu quo qui a été décidé. Voilà, donc, alors, le pessimisme, disons qu'il y a des signaux qui ne sont quand même pas bons. Le roman est un roman collapsologique. Voilà, je suis très sensible à ce courant de pensée. Bon, moi, je recommande la lecture. Je recommande la lecture de Comment tout peut s'effondrer, hein, de Pablo Servigné et Raphaël Martins, Stevens, pardon, qui est assez remarquable de ce point de vue-là. Bon, donc c'est un roman collapsologique. Alors, ça ne veut pas dire que oui, tout s'effondre et que tout est désespéré. C'est-à-dire que il faut apprendre à faire avec, il faut anticiper et apprendre à faire avec dans un monde où les ressources s'épuisent. C'est une leçon d'humilité, voilà. C'est une leçon d'humilité. La lucidité doit conduire à une certaine humilité, à une certaine éthique de vie, de consommation. Je crois que c'est absolument indispensable parce qu'il y a encore dans tellement d'esprits, notamment dans les esprits de ceux qui décident et qui ont la capacité financière de faire la pluie et le beau temps, c'est le cas de le dire, cette espèce de ce qu'on appelle l'illimitisme. L'illimitisme, alors d'ailleurs la notion d'illimité, hein, c'est dans le discours par exemple, un des tout premiers discours officiels de Reagan en tant que président des États-Unis. Et puis il n'y a pas très longtemps, je me souviens d'Elon Musk qui expliquait que la seule limite de l'humanité, c'était le ciel. Voilà, donc en gros, il n'y a pas de limite, on peut y aller, on peut consommer, on peut produire, on peut voyager, on peut... Bon. Mais ça, c'est pas du tout scientifique, hein. C'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Donc, bon, je vais pas en dire plus sur le roman, parce que j'ai envie que les gens le lisent. Donc.
Bien sûr, c'est pour...
Mais en tout cas, c'est un roman qui effectivement traite de la question, qui est collapsologique, au sens où il nous explique que oui, les choses ne vont pas bien. Maintenant, avec un peu de lucidité... beaucoup de courage et d'action collective, parce qu'individuellement on n'arrivera à pas grand chose, mais collectivement on peut réussir à faire quelque chose, oui. On peut tracer un horizon pour les plus jeunes qui arrivent après nous, ça j'en suis convaincu.
Alors est-ce que les Occidentaux sont des enfants trop gâtés, des consommateurs, des goinfres de tout, y compris des sites, des voyages, de la nature.
Bah oui, alors les Occidentaux, je sais pas, là je vais avoir beaucoup de mal à répondre à ça parce que c'est quand même très compliqué. Disons qu'on a pris de l'avance assez évident sur d'autres pays, d'autres cultures, d'autres régions du monde, ça c'est certain, qui courent après nous pour espérer atteindre un jour à peu près le même niveau de vie. Bon, ça c'est sûr. Ensuite, bon voilà, quand on regarde d'autres contrées dans le monde, on consomme aussi beaucoup, on pollue aussi beaucoup. Mais l'Occident, évidemment, on a beaucoup produit, beaucoup consommé, beaucoup pollué, beaucoup. Bon voilà, ma réponse n'est pas très très claire. Disons que le procès, il est la responsabilité de l'Occident, elle est évidente. Je trouve que c'est une bonne idée là pour le coup de commencer à se dire qu'on va peut-être devoir aider des pays qui n'ont pas connu le bien-être et le confort occidental, mais qui sont en train déjà de payer le prix fort du réchauffement climatique et de la catastrophe environnementale. Donc ça, c'est une bonne idée de commencer à concevoir des fonds monétaires pour les aider. Pour le reste, je crois que le problème et la responsabilité, elle est anthropologique, c'est-à-dire que c'est l'être humain. C'est la planète entière qui est concernée. Je pense que la difficulté, elle est là, elle est justement là. C'est de réussir à mettre d'accord tout le monde, les Occidentaux, ça c'est évident, mais aussi tous les pays, hein, puisque tous les pays, tous les continents consomment et polluent. Donc la difficulté, elle dépasse largement le cadre des frontières occidentales, je crois.
Alors le chat de Nietzsche pense que Otto est un petit prince qui est destiné à sauver... au moins à sauver Venise. Il le lui fait croire, donc après autour en rêve. Alors est-ce que le réel peut les rêves peuvent changer le réel?
Alors je le crois. Je Raymond parlait tout à l'heure de l'imaginaire. Hein. Oui, je crois que l'imagination peut bouger les lignes du réel, qu'un grand livre, un grand film peut pouvoir avoir un effet sur les esprits et donc la façon avec laquelle on conçoit le réel. Oui, il fait croire à... Bon, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice. Hein, on ne sait pas ce qu'il en pense en réalité, Nietzsche.
Non,
c'est pas trop,
sûr.
Mais il mise tout sur ce gamin. Ce gamin lui plaît. Pour le coup, il est spontanément non nihiliste. Il est du côté de la vie. Il aime vivre. C'est un rêveur. Il est spontanément très créatif. Il est lent et c'est pas grave. Enfin voilà. Donc Nietzsche l'aime beaucoup, ce gamin. Il a vraiment. On sent que. Enfin, j'ai essayé de faire en sorte qu'on le sente.
Oui. Hein,
cette sympathie qu'il a pour cet enfant. Et donc voilà, ce sera son héros. Il va essayer de l'en convaincre. Otto, on n'est absolument pas convaincu au départ, puisqu'il est quand même assez trouillard, il n'est pas du tout téméraire. Donc sauver Venise et à travers Venise sauver le monde, c'est pas son truc au départ. Mais effectivement, le Nietzsche, c'est une sorte de coach philosophique.
Quoi. Mm-hmm. Et dans votre livre, vous mettez d'ailleurs une citation de votre philosophe préféré, Michel Foucault, pour dire que l'importance de la lecture. Vous pensez que la lecture pourra sauver le monde aussi?
Pas seulement, certainement pas la seule lecture. En revanche, oui, la lecture est quasiment un protagoniste à part entière du livre. Alba lit énormément, c'est un élément de décoration à part entière dans cette maison vénitienne. Il y a des bouquins partout. Otto vit dans les livres grâce à sa sœur. Donc les livres, c'est très intéressant. Et puis, on est quand même beaucoup de personnages qui écrivent et qui lisent dans ce roman. La lecture, c'est un aliment spirituel majeur. Je ne crois pas que les gens aient cessé de lire, mais je sais qu'on est très affairé, que notre attention est quand même de plus en plus stimulée par d'autres capteurs d'attention qui font que là c'est plus l'expérience du professeur qui parle, hein. Je vois que ça devient l'exercice de lecture devient inévident pour beaucoup de jeunes. Et donc j'espère pouvoir dire à travers ce roman que c'est précieux, qu'un livre c'est précieux. Non, ça n'est pas remplacé par un fil d'actu, c'est une autre expérience. C'est pas non plus un film, c'est pas une musique, c'est une autre œuvre d'art spécifique qui donne accès à un univers spécifique. Je crois qu'on a besoin de la littérature, je crois qu'on a besoin de lire, et c'est ce que j'avais envie de dire.
Oui, bah ça, j'ai bien remarqué, effectivement. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous, quel est votre livre préféré?
Il y en a mille, donc je regarderai. Bon, je ne sais pas s'il arrivera à répondre à cette question. Il y en a beaucoup, alors je pourrais faire une liste infinie, mais je me tourne vers Raymond. Voilà, je botte en touche. Ça me laisse quelques temps comme ça pour réfléchir. On verra si je trouve
la question.
Oui.
Ah, s'il te plaît.
Oui. Moi, je l'ai déjà fait au moins 15 fois à la radio.
Ah, c'est parfait.
Ben moi, j'écris de la science-fiction, du fantastique, etc., mais je ne suis pas du tout braqué sur ce genre dans mes lectures. Et ben, mes auteurs préférés, moi, disons que ça va de Chateaubriand à Céline. Quoi.
Mm-hmm.
Donc la littérature, enfin classique, je ne sais pas si on peut parler de littérature classique pour Céline, mais enfin, de la littérature hors genre de l'imaginaire.
j'ai essayé de réfléchir un peu pendant...
Mais
merci Raymond, je te remercie.
Oui.
Céline, oui, c'est vrai que le voyage au bout de la nuit est quand même...
Oui, c'est quand même
extraordinaire. L'homme, hein, le biographique est pas très recommandable, mais l'auteur, bouquin est quand même, il faut bien le dire, assez exceptionnel. Oui. Ensuite, bien sûr, Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, l'œuvre au noir, pour moi, c'est un livre exceptionnel. Et ensuite, dans l'imaginaire, alors j'aime bien Ray Bradbury. Ray Bradbury, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Tout récemment, une très belle découverte, c'est Anna Starobinets. Voilà, je fais de la pub pour Anna Storbinette. Mmh. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Qui, pour moi, c'est la nouvelle. Voilà, les Russes ont quand même, dans la culture russe, il y a de très très grands écrivains, hein, Gogol, etc.
Oui.
Et elle réactive le fantastique russe, le bizarre russe que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour elle parce qu'elle a dû quitter la Russie pour des raisons assez évidentes et les auteurs comme elle ont été particulièrement mal vus et ciblés par le Kremlin. Donc elle a quitté la Russie. Enfin, je ferme la parenthèse, mais là, elle a publié un roman qui s'appelle Le Vivant il y a 2 ans, je crois. C'est très, très bien. Et Je suis la reine aussi, un recueil de nouvelles que je recommande.
Mmh. Quel est votre plus grand bonheur ?
Mon plus grand bonheur ?
Oui.
Ah, j'en ai plein.
Ah bah c'est bien, c'est merveilleux.
Bah oui, mes enfants, ma femme, que je salue, parce qu'elle m'encourage, elle me relie, donc c'est précieux, j'ai beaucoup de chance. Mes amis, mon métier, la littérature, cet instant-ci, où je parle de mon roman, j'en suis très très content d'en parler. voilà, j'essaie de... Voilà. Non, j'ai plein de bonheur, donc je mets un S à bonheur.
Ah, bah c'est super. Et votre plus grande peur ?
Ah, y a quelque chose que je gère très très mal, c'est le temps qui passe. Je suis nul. Nul. Je suis chronophobe. C'est... Voilà, donc j'essaie de... Je suis très très sensible à ça. Très sensible à ça.
Mm-hmm.
Voilà. Et je me souviens, quand j'avais découvert Proust pendant mes études, ça m'avait... bouleversé, enfin, c'est le genre de livre qu'on referme en se disant bah oui c'est ça point, et ça veut dire que c'était un très bon livre, et voilà, et je pensais qu'avec le temps, les années, cette sensibilité au temps qui passe allait s'arrondir un peu. C'est pas un grand succès, voilà.
Alors quels sont vos projets d'écriture? Vous avez déjà commencé un autre roman?
Alors j'ai un projet d'écriture, oui. Ça se passe sur une île. Voilà. Et il y aura toujours des personnages philosophiques dans le coup. Ce serait toujours alors plus science-fiction. Mm-hmm. Un peu moins fantastique et plus de la SF.
Et vous allez continuer à écrire des nouvelles, bien sûr ?
Oui, j'adore. J'adore le format. J'adore le... C'est une autre expérience d'écriture. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour des raisons pratiques, c'est bien commode, l'écriture de la nouvelle. Mais aussi parce que j'ai un vrai plaisir à faire ça. Donc je vais continuer à écrire des nouvelles. Ouais.
Ouais. Et vous avez mis combien de temps pour écrire votre roman ?
Alors, il s'est fait par couche, donc c'est très difficile. Très difficile. Je sais qu'en parlant avec des amis, des co-auteurs, certains arrivent à dire très précisément combien de temps ils ont mis. Moi, j'en suis absolument incapable parce que, voilà, il y a eu plusieurs... Il y a eu un premier récit... que j'ai laissé reposer, que j'ai repris, que j'ai retravaillé. Ensuite, je suis retourné à Venise et je me suis dit, bon, on va vraiment le... J'avais déjà en tête un circuit narratif, j'avais déjà... Mais disons que ça m'a convaincu qu'il fallait vraiment le finir. Donc en fait, ça s'est pas fait du début à la fin, ça s'est fait par couches successives. Voilà, un peu de manière géologique. J'ai mis beaucoup de temps, je crois. Je crois que ça m'a pris pas mal de temps.
Alors, Otto et les Déantistes, nouvelle fable de Venise, est une œuvre poétique et philosophique. Otto est un nouveau petit prince et le tout est un roman à mettre entre toutes les mains, un très beau cadeau à se faire et à offrir. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, Raymond va nous lire la quatrième de couverture.
C'est l'histoire d'Otto, un petit garçon qui entend dans un yaourtophone la voix de sa mère partie vivre sur Mars, qui dort dans le crâne d'une baleine et comprend le langage de Nietzsche, un vieux chat philosophe. C'est l'histoire d'une invasion barbare qui menace Venise, d'une fée anglaise qui prend le quart tous les jours à Mestre, et d'un reality book où l'on écrit toutes ses angoisses. C'est l'histoire de tableaux qui prennent vie, d'une invasion de zombies géants, des dissonances de Vivaldi et de lions qui volent. C'est l'histoire d'une incroyable bataille à mener contre les désastres écologiques et d'un combat intemporel pour la liberté et la fantaisie. Une autre façon de vivre et d'être au monde.
Mmh. Et en plus, la couverture du livre, c'est Michel Bordery, hein, c'est ça, elle est magnifique. Oui.
On a beaucoup échangé, hein, beaucoup, beaucoup échangé, beaucoup discuté. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais, mais je ne suis pas illustrateur. Hein. J'ai pas mon cerveau dans ma main, donc... Michel m'a posé beaucoup de questions, il a été très attentif. Et puis il a été très efficace. C'est-à-dire que quand il m'a présenté la couverture, c'était parfait. C'était vraiment, j'avais ça en tête au niveau des couleurs. Quelque chose qui rappelle un petit peu, d'ailleurs, l'iconographie byzantine dans le choix des couleurs. Les ombres chinoises à la Oslo, moi j'aime beaucoup. Enfin, il a fait quelque chose de superbe. Vous me demandiez ce qui me rend heureux. La couverture, par exemple, m'a rendu très heureux. Je le remercie. Merci, Michel.
Alors, merci à Raymond Hiss d'être venu nous parler du prix de la Cour de l'Imaginaire. Merci à Stéphane Croen qui vient d'obtenir le prix 2022 de la Cour de l'Imaginaire. Merci à lui d'être venu jusqu'à Nancy pour parler de son roman Otto et les Néantistes, nouvelle fable de Venise, publié chez Roïse Éditions. Merci également à Rémi qui était à la technique aujourd'hui.